Lingayou, revenons à une actualité plus récente et à la question qui va nous occuper pendant le reste de cette heure, la question de la neutralité des réseaux. Alors, cette expression de neutralité des réseaux est datée de 2005. Sous la plume, je regarde Benjamin Bayard qui me regarde par-dessous ses lunettes, un air de professeur. Alors, j'ai peur de dire des bêtises. Donc, c'est le professeur Timou, professeur à Columbia University, qui a forgé ce terme. Alors, elle explique, je donne une définition, Benjamin Bayard, ne m'en voulez pas, je donne une définition très simple. Vous pourrez la complexifier par la suite. Elle exprime donc cette expression de neutralité des réseaux, une idée simple telle que je l'exprime. C'est que l'architecture des réseaux et les opérateurs de ces mêmes réseaux ne peuvent pas exercer discrimination envers les applications qui circulent sur ces mêmes réseaux. C'est une définition un peu basique que vous allez pouvoir... pour le dire grossièrement, si je le pose le problème du point de vue du consommateur, que votre fournisseur d'accès soit Free, Orange ou encore Nous, vous devez pouvoir accéder au même site, à la même vitesse et utiliser les mêmes applications. Ça, c'est l'idéal. Or, la réalité est autre. Les réseaux ne sont pas neutres, ou tendent manifestement à l'être de moins en moins, ce qui pose des problèmes d'ordre divers, des problèmes économiques, des problèmes politiques, des problèmes intellectuels aussi. C'est en tout cas le point de vue de nos deux invités, donc Jérémy Zimmermann, qui est cofondateur de la Quadrature du Net, je le rappelle, et Benjamin Bayard, qui préside FDN, French Data Network, qui est, on l'a dit tout à l'heure, le plus vieux fournisseur d'accès à Internet français. Alors, donc, j'ai donné une définition assez sommaire de la neutralité des réseaux. Quand je vous ai demandé, vous avez dit que nous allions passer une demi-heure à non seulement définir le terme, mais peut-être montrer les enjeux. Vous m'avez dit, j'ai fait une conférence à Rennes il y a quelques jours, j'ai mis une heure et demie à définir le terme. Alors, je suis désolé, vous ne pourrez pas passer une heure et demie à le faire là. Est-ce que vous pouvez compléter l'un et l'autre cette définition que j'ai donnée de la neutralité des réseaux telle que la formule Timou ?
Alors, la formulation de Timou, elle était essentiellement destinée à des informaticiens. Et donc, pour moi qui suis informaticien et spécialisé des réseaux, neutralité vis-à-vis du transport, des applications, etc., c'est quelque chose qui est limpide. Pour quelqu'un qui n'est pas informaticien, ça peut sembler obscur. Il y a une autre très bonne façon de l'exprimer, qui est de l'exprimer par ses conséquences. Internet est unique. C'est pour ça qu'on met une majuscule à son nom, quand on dit Internet. Après, quand on dit, quand on met un L apostrophe devant, c'est qu'on parle d'autre chose. Quand je dis l'Internet marchand, par exemple, c'est un sous-ensemble d'Internet. Donc Internet est unique, et donc quel que soit l'endroit d'où on le regarde, on doit voir le même. On n'en voit pas forcément la même face, mais on doit voir le même. Et on doit avoir accès aux mêmes choses. C'est une très bonne façon de définir la neutralité. Qui revient au même, qui dit, quel que soit l'opérateur chez qui je suis, que j'y accède par de la DSL, par du câble ou par du mobile, je dois voir le même réseau, qui doit me présenter les mêmes informations, structurées de la même façon. C'est fondamental. Ce principe-là, en fait, il est beaucoup plus ancien qu'Internet. La neutralité des réseaux, c'est quelque chose qu'on connaît en droit depuis à peu près 2 siècles, qui est la non-responsabilité du transporteur. La Poste n'est pas responsable de ce que vous mettez dans votre courrier. Et la Poste transporte les lettres indépendamment de ce que vous avez écrit dedans. C'est fondamental. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très 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 longtemps, de même que France Télécom n'achemine pas les communications en fonction de ce que vous dites. C'est pas parce que je crie plus fort dans le téléphone que ça va mieux marcher, quoi. Donc il y a des définitions plus simples de la neutralité, qui sont d'essayer de décrire les conséquences soit de sa présence, soit de son absence.
Juste ce principe-là, quand Timou lui donne un nom, il donne un nom à quelque chose qui existe de manière implicite, de manière formulée, c'est des accords, c'est inscrit dans la loi. Ça a quelle existence, la neutralité des réseaux, du point de vue vraiment très pratique ou juridique, je ne sais pas.
Alors c'est beaucoup plus ancien que la... En fait, ce qu'a défini Timou, c'est ce qu'on appelle net neutrality, qui est le terme anglais. Pour le coup, les francophones ont un peu d'avance dessus, c'est dans la loi depuis un petit moment déjà.
Jérémy Zimmermann.
Moi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, par rapport à la définition de Benjamin, du point de vue de l'utilisateur, la neutralité du net, ça veut dire que votre opérateur réseau vous donne accès au tuyau qui vous raccorde à Internet, mais ne choisit pas ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire avec le tuyau. Vous avez une liberté totale d'utiliser ce tuyau. Et ce que j'aimerais ajouter également, c'est que c'est par ce principe de neutralité du net que l'on a construit Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quand je dis « on », c'est les utilisateurs d'Internet qui l'ont construit. par-dessus l'infrastructure qui était celle des tuyaux inertes que nous fournissent les opérateurs. Et donc la question, c'est bien de conserver cette capacité à participer au réseau, à participer à son élaboration. L'exemple le plus typique, c'est celui des deux gus dans leur garage qui, de l'autre bout de la Californie ou d'ailleurs, vont lancer un Google, un eBay, un Skype, un Twitter, qui sera un tout petit bout de machin dans un coin d'Internet et qui, 6 mois après, deviendra la coqueluche du monde entier. C'est cette capacité d'innovation collective qui est aujourd'hui mise en péril par des opérateurs qui se disent que s'ils pouvaient porter atteinte sans que personne leur dise rien à cette neutralité du net, ils pourraient recapturer le réseau, ils pourraient reprendre le contrôle du réseau et en fait se faire du beurre avec tout ce qui passerait dans leur tuyau. Et un exemple très concret de ça, c'est le pseudo-internet mobile, je mets des guillemets aériennes
Celui auquel on accède par son téléphone mobile.
Voilà, avec votre téléphone mobile, en France, quel que soit votre opérateur, parce que les trois, Orange, SFR et Bouygues, ont exactement les mêmes conditions là-dessus, qui sont de dire, vous n'avez pas le droit, encore une fois, entre guillemets, d'utiliser un logiciel de voix sur IP comme Skype, parce que sinon vous n'allez pas payer les communications internationales hors de prix lorsque vous quittez la France. Vous n'avez pas le droit de faire du peer-to-peer ou du newsgroup, parce que sinon vous n'allez pas aller sur leur service de vente de musique en ligne ou de choses comme ça. Et donc l'opérateur crée un nouveau droit de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire sur le réseau pour essayer de capter une clientèle, d'abattre la concurrence autour. Et les conséquences pour l'innovation et pour les libertés individuelles sont absolument intolérables. Juste pour conclure sur mon introduction, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit dans sa décision du 10 juin au sujet de la loi Hadopi. Internet est devenu essentiel aujourd'hui pour exercer sa liberté fondamentale d'expression et de communication qui elle-même est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie.
Non, mais je suis d'accord.
Donc, c'est avec ça qu'on est en train de jouer aujourd'hui quand on porte atteinte à la neutralité du net. C'est la liberté d'expression.
Mais si on s'attarde juste un instant sur la question de l'Internet mobile, alors effectivement, vous mettre un L majuscule car ce n'est qu'une petite partie de l'Internet. Est-ce encore Internet, Benjamin Bayard? À cela, quand on lui explique que ça nuit à la neutralité, au principe de la neutralité des réseaux, Nathalie Kosciusko-Morizet répond de façon assez... de bon sens, qu'après tout, comme on est souscrit par contrat, on sait à quoi on a droit ou pas droit en prenant tel fournisseur d'accès sur son téléphone mobile, que ce n'est pas une atteinte à la neutralité que de souscrire à la propre diminution de sa liberté. Benjamin Bayard.
C'est une façon très curieuse de traiter le sujet. Si on le transpose dans d'autres domaines, la même chose, la même idée que celle que défend Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est par exemple que finalement on peut très bien vendre des yaourts avec du plomb et du mercure du moment que c'est écrit dessus. Le contrat stipule qu'il y a du mercure dedans, vous le mangez, c'est votre problème. Je trouve ça curieux. On pourrait imaginer que, voilà, moi j'ai passé un contrat avec tel transporteur de courrier, puisque ça va être concurrentiel sous peu, pour me faire livrer mon journal. Et il se trouve que dans le contrat, il y a dit que tous les articles qui disent du mal du gouvernement ne seront pas livrés, et le journal qui arrive est caviardé.
Non mais, Benjamin
Bayard, est-ce qu'un contrat peut légalement, légitimement dire ça, surtout dans un contexte dans lequel on a affaire à un oligopole?
Mais Benjamin Bayard, est-ce qu'on en est, enfin je vous pose la question l'un à l'autre, est-ce qu'on en est vraiment à ce niveau de menace-là
bien
sur
sûr.
Ce principe de la neutralité?
Bien
est-ce que c'est, parce qu'on pourrait considérer, c'est aussi l'argument de certains opérateurs, notamment de téléphones comme AT&T aux États-Unis, etc., de considérer que certains sites sont énormément consommateurs de bandes passantes et que donc il faudrait que du coup ça produit la nécessité d'innovation, de l'investissement pour ces mêmes opérateurs, que ça leur coûte cher et que du coup ils voudraient pouvoir faire payer plus cher les gros consommateurs par exemple YouTube, Dailymotion qui utilisent énormément de bandes passantes et donc voilà il faut qu'ils fassent de l'argent, il faut qu'ils innovent.
Oui, mais c'est un peu curieux comme approche, c'est-à-dire qu'effectivement les gens s'en servent basiquement. C'est-à-dire que moi, c'est Internet, si je m'en sers pas, je paye pas un abonnement. Donc, c'est-à-dire si j'ai payé un abonnement, c'est bien pour m'en servir. C'est-à-dire si je, client de AT&T aux États-Unis ou de Orange ou de n'importe quel autre, si j'ai payé un abonnement, c'est pour m'en servir. S'il m'explique que parce que je m'en sers, ça coûte du pognon, ben oui, je paye un abonnement pour ça. La Poste constate que les gens se font envoyer de plus en plus de courriers et décide d'augmenter ses tarifs. C'est idiot comme point de vue.
Et même au-delà de ça, c'est le modèle d'investissement et le modèle de croissance d'Internet qu'on connaît qui est absolument basé sur ce phénomène-là. Au plus, il y aura de nouveaux YouTube, Twitter, etc. qui intéresseront les gens. Au plus, il y aura de gens connectés. Au plus, cela fera d'argent pour l'opérateur qui, du coup, sera incité à faire croître son infrastructure. Vous parliez de bande passante. Je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers avec ce concept. La bande passante, c'est le diamètre du tuyau. C'est le diamètre du tuyau Internet. Je ne dis pas de bêtises, Benjamin. Donc, jusqu'à présent, quand le trafic sur le réseau allait atteindre le diamètre, on augmentait la bande passante. Mmh. Et c'est ce qu'on a toujours fait depuis 20 ans. Et c'est ce qui fait qu'Internet grossit de façon organique en fonction du nombre d'utilisateurs, des nouveaux besoins, des nouveaux usages. Et donc, c'est ce modèle d'investissement qui est là aussi mis en danger parce que les opérateurs se disent « Ah ben tiens, on va créer une espèce de rareté artificielle. » On va bloquer la taille du tuyau et on va dire à partir de maintenant, ça rame. Donc ceux qui veulent aller à la vitesse normale, maintenant, vont payer. Et au lieu de vendre un accès à une vitesse supérieure, on va vendre un accès à la vitesse normale alors que tout le monde va ramer. C'est un modèle économique qui est très lucratif, sauf que ça fait investir dans des outils qui font de la discrimination, du contrôle, plutôt que faire grossir le réseau tout entier.
Alors justement, je vais reposer la question parce que je me suis interrompu moi-même dans ma question, qui était de savoir est-ce qu'on en est à ce niveau-là de menace, celle que vous décrivez, par exemple, de discrimination sur des contenus, Benjamin Bayard.
Oui, on en est à ce niveau-là. On en est à ce niveau-là sur énormément de sujets en particulier. Il y a plusieurs projets de loi sur le sujet qui sont extraordinairement inquiétants et où on est sur des niveaux qui semblent bizarres en France. Quand on y réfléchit. Dans les projets de loi qui sont en cours de discussion, il y a celui qui est en cours de discussion, là, maintenant, depuis le début de l'émission, ils sont en train d'examiner l'article 50 d'un projet de loi à l'Assemblée nationale.
Sur la libéralisation des jeux en ligne.
Sur la libéralisation des jeux en ligne. Alors, il y a tout le côté libéralisation, concurrence, machin. Et puis, il y a un aspect qui est amusant, qui est l'article 50, qui dit que pour les sites qui ne sont pas estampillés par le gouvernement, qui sont donc illégaux, on pourra, sur décision administrative, demander aux opérateurs de filtrer. Donc, c'est bien ce dont je parlais. On va caviarder mon journal, puisque moi, je voulais aller voir un site web parfaitement illégal. Et on va caviarder mon journal sur demande du gouvernement et tel qu'était présenté le projet de loi, sans l'intervention d'un juge. Même punition, il y a un des projets de loi qui a été un peu mis au rancard pour le moment, mais qui devrait ressortir, qui parlait de sécurité intérieure et qui proposait de faire filtrer, sur décision administrative par décret du ministère de l'Intérieur, des sites web. Et filtrer de l'accès à l'information sur décision du ministère de la police en France.
De l'intérieur, Benjamin Bayard.
Ah bah oui, mais c'est les mêmes. Du temps de Fouché, ça s'appelait le ministère de la police, ouais. Et c'était plus clair.
Mais alors, si je comprends bien, oui, allez-y.
J'aimerais en rajouter encore une louche là-dessus, sur cette volonté politique de contrôler Internet qui se fait jour aujourd'hui. On a l'impression que de plus en plus les politiques voient Internet comme une menace, comme un contre-pouvoir qui risquerait de les faire tomber à tout moment. On l'a vu lors de l'affaire Hortefeux, où le grand coupable, c'était Internet, sur lequel n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Bon, il se trouve que c'est ma définition de la liberté d'expression. N'importe qui peut raconter n'importe quoi et c'est très bien. Mais quand on voit les gouvernements qui commencent à vouloir contrôler Internet et qu'on va donner d'un côté aux opérateurs ce pouvoir-là, on se dit que on est à deux doigts de basculer.
Alors ce que je comprends pas, ou alors peut-être que ça s'explique par des raisons qui sont des raisons de culture politique, c'est pourquoi est-ce que le principe de la neutralité des réseaux a été défendu comme une promesse de campagne par Barack Obama? Que la Chambre des représentants, vraisemblablement, devrait proposer une loi dans les jours, semaines qui viennent pour donc inscrire ce principe de neutralité des réseaux dans la loi américaine. Donc, est-ce que là, on est simplement dans une différence culturelle, une différence d'usage, puisqu'on sait que par ailleurs, l'administration Obama fait un usage du net, enfin, d'ouverture des données, par exemple, administrative, etc., qui est assez intéressant et assez novateur. Comment comprendre ça? Est-ce qu'on est vraiment très rétrograde en France? Ou est-ce que finalement, je précise ma question, est-ce que aussi les attaques qui sont portées à la neutralité du réseau sont pour l'instant plus violentes aux États-Unis de la part des gros opérateurs que sont AT&T ou Comcast, par exemple? Jean Bayard.
Alors, il y a deux choses. Il y a plusieurs questions dans la même.
Ouais.
Sur la différence entre la position de l'administration Obama et la position de l'administration Sarkozy, il y a une vraie différence de fond, qui sont que les deux équipes n'ont pas compris de la même manière ce qu'était Internet et les conséquences que ça avait. Les politiques ont, de manière générale, peur d'Internet, exactement comme les politiques ont eu peur de la presse quand elle est apparue, la presse imprimée, au XVe siècle. Si l'imprimerie a été privilège royal pendant près de trois siècles, c'était parce que les politiques en avaient peur. De la même manière, ils ont peur d'Internet, ils ont raison d'avoir peur, hein. Ça permet aux gens de parler. Et c'est jamais bon, ça, en politique, le citoyen qui s'exprime. Donc il n'y a pas la même compréhension. Il y a après une vraie différence historique de fond. La liberté d'expression, les libertés fondamentales et les droits de l'homme, ça a des gros bouts d'origine en France, mais c'est un produit d'exportation. C'est-à-dire qu'on l'a bien vendu à l'étranger, les Américains ont acheté et s'en servent depuis, on s'en est toujours très peu servi en interne. Il y a une pratique de la liberté d'expression et des libertés individuelles dans les pays anglo-saxons, typiquement de la présomption d'innocence, qui n'est pas du tout la même qu'en France. Donc c'est de la vieille tradition. Donc il se trouve qu'aux États-Unis, les questions de liberté d'expression autour d'Internet sont des choses qui parlent. Le premier amendement de la Constitution américaine, personne n'envisage de le remettre en question, et il est d'une violence extraordinaire. Il dit qu'effectivement, n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi, fût-ce odieux, fût-ce faux, on a le droit. C'est l'approche américaine de la liberté d'expression, elle est assez extrémiste. En France, on a une approche assez extrémiste à l'opposé. Mmh. On a plus le droit de... Enfin, je sais pas, je prends des exemples que j'aime beaucoup. En France, on n'a pas le droit de parler de drogue. Mmh. C'est délirant. Pourquoi ? Ben voilà, on n'a pas le droit. C'est un sujet interdit.
Et sur l'autre aspect de ma question, est-ce que les attaques sont plus violentes aujourd'hui aux États-Unis ?
Alors, les attaques des opérateurs, pour le coup, ça c'est une vraie question de marché économique. Et il se trouve que le marché économique en France, il a été fait à la fin des années 90 par Free. C'est Free qui a défini les conditions de marché dans l'accès Internet fixe. C'est eux qui ont défini les prix, c'est eux qui ont défini la qualité de service. Bref, c'est eux qui ont fixé les règles du jeu de manière durable. Ce qui explique que le réseau en France, le réseau fixe, est extrêmement neutre. Il n'est pas parfaitement neutre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Hormis deux ou trois âneries de nous à certaines époques et de France Télécom en ce moment, il n'y a vraiment rien comme problème. Par contre, aux États-Unis, il n'y a pas l'équivalent. Pour comprendre le réseau Internet fixe aux États-Unis, il suffit de comprendre l'Internet mobile en France. En France, il n'y a pas le trublion dans le mobile. D'ailleurs, il n'y aura probablement jamais, puisque...
C'est le quatrième opérateur.
Voilà, le quatrième opérateur n'existe pas. C'est visiblement une volonté politique, si on en croit les interviews parues récemment. L'absence de ce trublion qui a fait le marché fait qu'il y a une vraie différence de positionnement. Et donc, effectivement... La neutralité du réseau est beaucoup plus agressée aux États-Unis qu'en France, mais d'un autre côté, elle est aussi défendue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas de filtrage assez sévères qui ressemblent beaucoup à ce que fait France Télécom depuis deux ans maintenant sur son réseau, où il filtre le courrier électronique. Vous n'avez pas le droit d'héberger un serveur de courrier électronique chez vous. Ça, il y a eu un équivalent aux États-Unis qui a été fait par Comcast, et Comcast s'est fait reprendre par l'autorité de régulation américaine assez rapidement et assez sèchement.
Et
en France, rien, il n'y aura jamais rien.
Et justement, quelles sont les solutions à apporter à ça ? Et quel niveau est le bon ? Ça, peut-être que vous voulez rebondir.
Justement, oui, non, c'est sur cette question de la régulation, de la mise en œuvre de la neutralité du net que va se jouer le débat. Vous disiez qu'aux États-Unis, cette loi va bientôt être introduite. J'ai ouï dire qu'il y avait peu de chances qu'elle soit votée, et à plus forte raison depuis une annonce de la FCC, donc l'autorité de régulation, qui a mis en œuvre des règles de conduite dans la régulation du net, qui ne passe pas par la loi, justement. Cette espèce de soft law, typiquement anglo-saxonne. La question s'est posée au niveau européen, en réalité. C'est pas en France qu'il faut attendre quelque chose, je pense, pour mettre en œuvre la neutralité du net.
Avec le paquet télécom.
Au niveau européen, avec le paquet télécom, voilà, qui est un ensemble de directives extrêmement complexes. Une révision de ces directives est en cours, qui met en œuvre le cadre des régulations des communications électroniques, ont été introduites des dispositions, c'est là que ça devient intéressant, par le géant américain AT&T, qui aux États-Unis est le plus farouche opposant à toute règle concernant la neutralité du net, qui sur son internet mobile fait des trucs absolument honteux, enfin bloque absolument tout ce qui passe sur son internet mobile, et qui en Europe était le plus puissant lobbyiste, le plus ardent lobbyiste contre la neutralité du net, et qui avec notamment British Telecom et le régulateur anglais Ofcom ont réussi à faire passer des dispositions qui disent exactement ce qu'expliquait Benjamin sur les contrats, qui disent « Ah ben les opérateurs vous expliquent dans les contrats, quelles seront les restrictions appliquées à l'accès aux services et aux applications sur Internet. Et sous-entendu, à partir du moment où c'est dans le contrat, tout va bien. Et donc, nous, on a bataillé, on a ferraillé à Bruxelles avec de très nombreuses associations européennes pour que ces dispositions soient enlevées. On est en train de se battre pour qu'un amendement qui a été voté déjà par deux fois, par 88% du Parlement européen, qui est l'amendement 138, qui, entre autres, s'oppose à la riposte graduée à la française, mais qui va beaucoup plus loin en disant que toute restriction à l'accès à Internet doit être soumise à une décision préalable de l'autorité judiciaire, ce qui est à peu près ce qu'a dit le Conseil constitutionnel dans la DOPI. Et aujourd'hui même, cette disposition dans le paquet télécom est en train de se faire attaquer de toutes parts par le Conseil, donc par les ministres de tous les États membres et par des courants même internes au Parlement européen. Donc cette bataille est littéralement en train de se jouer aujourd'hui au niveau européen.
Et peut-être que votre chance, elle est cette espèce d'alliance assez rare dans ce combat entre des très grands et des très petits. C'est-à-dire que les défenseurs de la neutralité du net sont à la fois des gens qui sont les défenseurs de la liberté publique, c'est ce que j'appelle les petits, c'est peut-être un peu faux de dire ça, mais disons que c'est des associations comme les vôtres. Et de l'autre côté, ceux qui ont intérêt aussi à la neutralité du net, ce sont par exemple YouTube, Dailymotion, Microsoft, non, Benjamin Bayard ?
Non, ces gens-là n'ont pas non plus intérêt à la neutralité du net, ils y ont un intérêt momentané. Microsoft a un intérêt très relatif parce que si quelqu'un était filtré un jour sur Internet, ce ne serait pas eux. On ne va pas faire taire les gros et on ne va certainement pas faire taire ceux qui, grâce à Internet, sont capables de produire énormément d'argent puisque du coup, ils sont capables de verser une redevance colossale et de rester rentables. Donc, ils ne sont pas les premiers concernés. Les prises de position de Google sont plus intéressantes. Google, c'est YouTube aussi. C'est les mêmes, c'est la même boîte. Elles sont plus intéressantes parce qu'elles sont en grande partie basées sur l'expérience personnelle des fondateurs qui se trouvent être encore dirigeants de l'entreprise.
Ouais. Et il n'y a pas longtemps, ils étaient encore des utilisateurs lambda du net.
Il y a 10 ans de ça, c'était deux étudiants dans leur piôle qui avaient une bonne idée et qui ont pu innover parce qu'Internet était neutre à l'époque.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, une sorte de sociologie du dirigeant.
Tant que Google sera dirigé par ses fondateurs, donc par les gens qui ont eu la bonne idée, qui ont su la comprendre et qui ont su mener à bien le projet, Google aura ces positions-là. Le jour où Google sera essentiellement dirigé par des fonds de pension, Google n'aura plus la même position. Et ça, c'est fondamental comme point de vue.
Daniel Boursier, il reste peu de temps.
Je voulais juste dire que, en fait, on est sur le combat de si on ouvre, on peut avoir effectivement une curiosité, une émergence de quelque chose qu'on n'attendait pas. Mais si on ferme, en fait, on réduit l'innovation. C'est pour ça qu'il y a un vrai paradoxe.
Comme cet art, quand même, de réunir les deux sujets dans une phrase finale.
Il y a une formulation prodigieuse là-dedans qui est de dire que la neutralité du net permet l'innovation sans permis. Ce qui est exactement ce qu'a fait Google et ce qui serait rendu impossible.
Jérémy Zimmermann,
justement, pour conclure. Oui, pour conclure, c'est peut-être cette neutralité du net qui permet la sérendipité qu'on y retrouve.
C'est beau.
Quelque part, tous les bénéfices sociaux, culturels et économiques que l'on tire d'Internet aujourd'hui dépendent de cette neutralité qu'il nous faut défendre en tant que citoyens.
Si vous continuez, vous allez devoir faire la désannonce totale de l'émission. Merci à tous les quatre. Vos biographies, toutes les références de vos travaux sont sur le site internet de l'émission qui vous était proposée par Xavier Delaporte avec la collaboration de Daphné Amgral. À Technique ce matin, c'était Vincent René, réalisation Daniel Fineau. La prochaine émission sera consacrée à deux sujets. On verra comment le web change la fabrication de la musique, vraiment de manière très, très concrète. Et puis on posera aussi quelques questions de typographie en deuxième partie de l'émission. Ce sera demain. Ce sera la semaine prochaine à 11h.